Notre vie en église au rythme de l'année liturgique. Réalisé avec Jean-Marie Dujardin et Armand Gall. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Retrouvons tout de suite Jean-Marie Dujardin, laïc dominicain à Lille. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Armand. Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs.
Alors,
je suis toujours très heureux de retrouver.
C'est réciproque. Merci Jean-Marie. Alors aujourd'hui, quel est le thème de cette méditation?
Alors, nous en sommes au troisième dimanche de l'Avent de l'année C. Et je vous invite à me suivre dans une méditation sur les textes du jour. Ce troisième dimanche de l'Avent reste dans la même tonalité que les deux premiers. Il est, lui aussi, caractérisé par l'incitation à la foi, à l'espérance, à la prière. Et il est débordant de joie dans l'attente de la venue du Messie. Il s'agit d'une attente qui est veille intérieure, vigilante, recherche de la purification du cœur, car Dieu vient à nous en son Fils, notre Sauveur, et ce n'est pas rien. Mais l'idée dominante de la liturgie de la parole de ce jour est marquée par la joie de Noël à venir. Ce dimanche s'appelle d'ailleurs Gaudete, mot qui signifie réjouissez-vous. Oui, réjouissons-nous car le Seigneur, à aucun moment depuis les origines, n'a oublié l'homme en dépit de toutes ses dérives. L'homme qui, au cœur de la création, est l'objet de son amour infini et de toute sa tendresse. L'antienne d'ouverture de la messe du jour donne le ton. Soyez dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Dans cette optique, la prière d'introduction nous fait demander au Seigneur, à propos de la nativité de son Fils parmi nous, je cite, « Dirige notre cœur vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. » Ici encore, outre la notion de grande joie, se dit à chacun de nous la nécessité de la conversion intérieure. Nous avons sans cesse à nous convertir d'ailleurs. C'est là une constante de la vie du chrétien. C'est Jésus qui nous l'a dit. Celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dans la première lecture, Sophonie, au chapitre 3 de son livre prophétique, nous livre des mots qui, des siècles avant le premier avènement du Christ, sont une véritable exultation. Je cite ce qu'il nous dit, un extrait tout au moins. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem. Et le cantique qui suit, au chapitre 12 du livre du prophète Isaïe, n'est pas moins invitation joyeuse. J'en cite aussi un court extrait. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Saint Paul, par ailleurs, au chapitre 4 de sa lettre aux Philippiens, se situe exactement dans le même registre. Je le cite lui aussi. Frères, soyez toujours dans la joie, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. là aussi, il est question de joie. Mais intervient dans le propos de l'apôtre un rappel de cette nécessité constante de la prière confiante, laquelle est rencontre avec Dieu lui-même. Je le cite de nouveau. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Oui, le Seigneur est à l'écoute de nos cœurs en prière. Il nous précède toujours et il fait, sans se lasser, agir en nous sa grâce, si nous nous appliquons sous le souffle de l'Esprit à rester patient, vigilant, confiant, sûr que la prière du cœur est vraiment rencontre réelle avec lui. Car c'est bien dans notre cœur, au plus intime de nous-mêmes, que tout se passe. À propos de la paix de Dieu dont nous parle saint Paul, rappelons-nous les paroles de notre Gloria que nous chantons chaque dimanche à la messe. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime, comme les anges le dirent au berger de Noël. Cette paix, dont Jésus est le prince, venu pour nous la donner. La véritable paix qui ne peut venir que de Dieu. Les deux premières lectures, donc, nous rappellent l'attente du jour du Seigneur lors de sa nativité parmi nous, de même que son retour en gloire à la fin des temps. Mais avec l'évangile du jour, en Saint-Luc, au chapitre 3, nous sommes mis en présence de quelque chose qui n'avait pas encore été explicitement cité. Les temps messianiques sont là. Jean le Baptiste, la voix qui crie dans le désert, baptise dans le Jourdain et prêche la conversion. Et chacun le questionne sur la conduite à tenir à l'approche de la venue du Messie qu'il proclame avec force et conviction. L'Église reprend donc l'appel du Baptiste, convaincue qu'elle est que le chemin de la conversion dans les pas de Jésus sera d'actualité jusqu'à la fin des temps. Dieu nous laisse le temps de nous convertir. Ce qu'il veut, c'est toucher les cœurs, afin de provoquer les retournements salutaires, lesquels sont les fruits de la grâce patiemment répandue par sa parole. Mais Jean, ainsi qu'il le dit, baptise dans l'eau, alors que Jésus, précise-t-il, baptisera dans l'Esprit et le feu. L'Esprit qui le ressuscitera, après qu'il aura lui-même reçu le baptême qu'il annonce à ses disciples. En Saint-Luc au chapitre 12, voici ce que dit le Seigneur. Je dois recevoir un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus parle ici de sa passion, de sa croix, de sa mort, laquelle sera vaincue par sa résurrection. C'est de ce baptême-là dont nous avons été baptisés. Oui, baptisés en Christ ressuscité, vainqueur de la mort par le souffle de l'Esprit, signe du feu de l'amour infini de Dieu, selon sa promesse millénaire. C'est ce feu qui se manifeste sur les apôtres au jour de la Pentecôte, souvenons-nous. Après que Jésus les ait envoyés en mission, avant son retour vers le Père, évoqué en Saint Matthieu au chapitre 28, Saint Matthieu qui nous rapporte ces paroles de Jésus que je cite maintenant, « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Nous voici loin du sujet de l'avant, me dira-t-on. Mais non. Le temps de l'avant, voulu par l'Église, n'est pas autre chose qu'un merveilleux temps de grâce qui nous prépare à tout ce qui va suivre et qui nous y plonge d'ores et déjà. Peut-on séparer le prélude de ce à quoi il introduit? Cette suite est la réalisation de ce mystère incroyable, dépassant l'entendement humain, que nous célébrons au cours de chacune de nos Eucharisties et que nous proclamons de toute notre foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Comment ne pas se laisser propulser en avant? En ce temps béni de préparation à l'avènement de notre salut, en regardant cette fresque lumineuse, qui n'est pas un tableau artistique pour rêver, mais qui est en vérité la contemplation du dessein merveilleux du Dieu d'amour et de miséricorde pour le salut de tous ses enfants. Seigneur, mets-nous debout sur ton chemin, dans la ferveur de tout notre être, par notre communion à ton Eucharistie, merveilleux mystère de notre salut.
Merci beaucoup Jean-Marie, je rappelle que vous êtes laïc dominicain à Lille et à très bientôt pour une prochaine émission au rythme de l'année liturgique.
À très bientôt Armand, au revoir.
Notre vie en Église au rythme de l'année liturgique. Une émission qui a été réalisée par Jean-Marie Dujardin et Armand Gall.